Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Chef de l'aéropostale à Cap-Juby, dans le Sahara, à la fin des années 20, Antoine de Saint-Exupéry a fait l'expérience du désert. Pas seulement cette grande étendue de sable silencieuse, mais aussi et surtout son désert intérieur. Que nous révèle l'auteur du Petit Prince à travers sa quête de Dieu? Saint-Exupéry, la spiritualité au désert, aux éditions Salvator, c'est l'ouvrage de Michel Faucheux, historien des idées et biographe. Il est l'invité de Radio Présence aujourd'hui. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Alors d'abord, j'aimerais vous poser une question un petit peu personnelle, puisque cet ouvrage sur Saint-Exupéry dit beaucoup de choses, il est très très riche. Je voudrais vous demander qu'est-ce qui vous lie précisément à cet Antoine de Saint-Exupéry?
Alors d'abord, je dirais de manière très factuelle, ce qui me lie, c'est, je dirais, la géographie. Je veux dire, je suis né à Toulouse. Quand on est né à Toulouse, on est né dans le berceau de l'aéropostale, de
Eh oui.
l'aviation. Et en outre, quand j'étais lycéen, j'allais au lycée Fermat, donc je passais, je ne sais pas, plusieurs fois par jour devant l'hôtel du Grand Balcon où étaient hébergés les pilotes de l'aéropostale.
Hôtel qui
Bref,
donne sur la place du
j'ai
Capitole.
grandi dans le souvenir de Saint-Exupéry. Mais ma réponse n'est pas suffisante. Je veux dire, ce qui me lie à Saint-Exupéry, c'est en définitive la quête de spiritualité qui est la sienne. Et je dirais que, avant de compléter ma réponse ultérieurement, ce qui me frappe chez Saint-Exupéry, c'est que on entretient avec lui, on entretient avec cet écrivain une relation qui est particulière, qui est peut-être pas la même que celle qu'on entretient avec d'autres écrivains. Je dirais que Saint-Exupéry est un auteur qui accompagne ou qui guide dans le chemin spirituel qui peut être celui de toute vie humaine. Voilà. Et c'est au fond en cela que Saint-Exupéry m'est proche parce que il m'accompagne. Alors, il m'a accompagné géographiquement à Toulouse et même dans d'autres endroits qui sont les miens, y compris actuellement à Lyon, puisque on le sait, Lyon est la ville de naissance de Saint-Exupéry.
Oui.
Mais c'est aussi d'abord parce que c'est un auteur qui me guide, qui m'accompagne dans la quête de spiritualité qui est la mienne.
Et alors justement, on va voir cette quête de spiritualité qu'a menée Antoine de Saint-Exupéry. Il a quand même été marqué par de nombreux deuils. Il a d'abord perdu son père et puis surtout, il a perdu son frère François. Ça a été un deuil qui l'a beaucoup marqué. Quel legs, au pluriel, fait ce frère François à son frère écrivain?
Oui, François, son jeune frère, Saint-Exupéry le perd en 1917. Et dans une scène en fait qui est riche de signification, François, qui sait qu'il va mourir, lègue ses jouets à son frère Antoine. Et ce lègue, évidemment, va bien au-delà celui de simples jouets. C'est un lègue, donc, un lègue, il y a aussi spirituel. En définitive, il lui dit que nous avons tous à transmettre un héritage. Et en définitive, l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est cela aussi, un testament qu'il nous adresse à nous, comme son frère lui avait adressé un testament fait de jouets. Et ce testament, c'est précisément un héritage spirituel qui est le propre de l'humanité et que nous devons nous-mêmes, par nos conduites, par nos quêtes, transmettre. Transmettre à notre génération et transmettre aux générations à venir.
Et qu'est-ce que ce testament spirituel contient précisément ?
Bien, je dirais, il contient au fond une idée forte, précisément, c'est que l'être humain est un être spirituel. Or, précisément, cette vérité, je dirais presque d'évidence, hein, qui est la caractéristique majeure de toute anthropologie humaine, eh bien, dans un monde matérialiste, dans une civilisation fondée sur l'économie, ou non pas l'économie, mais l'économisme, le matérialisme, eh bien, dans une civilisation qui fait de nous des robots, comme le dira Saint-Exupéry dans l'une de ses dernières lettres, nous oublions cette dimension-là qu'il s'agit de se reconstruire. Nous sommes des êtres spirituels qui ont vocation à l'invisible et nous nous amputons dans la civilisation qui est la nôtre de cet invisible-là.
Ce qui est intéressant quand vous dites que Antoine de Saint-Exupéry se désolait que les hommes soient devenus des robots, c'est que on a quand même l'impression que ce constat est encore fait aujourd'hui. Qu'est-ce que ce constat entraîne? Enfin, quel est le comment dire quelles sont les conséquences de ce constat?
Eh bien, je dirais que nous nous oublions nous-mêmes. Alors, d'abord, ce constat, Saint-Exupéry le fait donc à la fin des années 30, et puis dans sa dernière lettre, hein, qu'il écrit avant son dernier vol, le 30 juillet 1944. Je fais une parenthèse, il ne faut pas oublier que Saint-Exupéry a aussi une vocation, une formation scientifique, hein. Il a préparé l'école navale, hein.
Oui, c'est vrai.
Donc il était tout à fait au courant des innovations techniques qu'il faisait. Eh bien, et ce constat que nous devenons robots, Bernanos en 1947, dans La France contre les robots, le fera à son tour. Et de fait, ce qui s'ensuivra dans les années d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la cybernétique, la robotisation et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Eh bien, ce qui se passe, c'est que nous devenons, nous technicisons, nous devions des êtres qui sont au fond des outils techniques pris dans un dispositif technologique qui est par exemple celui que nous utilisons, qui a pour nom Internet, dont nous ne sommes plus que des nœuds de connexion. Et en définitive, nous devenons, je dirais, faits de technique avec. Je dirais l'idéologie jusqu'au-boutiste du transhumanisme qui veut nous faire fusionner avec la machine. Donc, ce constat de Saint-Exupéry, qui a 80 ans, il est encore plus vrai aujourd'hui, où, en définitive, ce qui est mis en péril, c'est toute humanité. Voilà.
Et
Nous, on
Saint-Exupéry.
veut nous faire, on tente de nous faire devenir machine, robot, de fusionner avec la machine.
Et vous écrivez dans votre livre que Saint-Exupéry refuse l'égalitarisme qui nivelle les êtres. C'est aussi ça, la robotisation des personnes
Oui, bien
humaines.
sûr.
C'est le fait aussi que tout le monde soit au même
Eh bien, bien
niveau et il
sûr.
n'y a plus de
Nous
caractéristiques
sommes
particulières.
dans un monde où tout devient l'être humain, chaque être humain est unique. Et donc, dans cette civilisation, les êtres humains deviennent interchangeables comme des marchandises qu'ensuite il faut limiter à leur utilité et qu'il faut ensuite jeter lorsqu'elles apparaissent inutiles dans la civilisation de pseudo-efficacité qui est la nôtre.
Et
Ce
ça.
qui est oblitéré toute autre dimension de spiritualité, d'élévation qui est le propre de l'humanité.
Et là, on est bien loin du dessein de Dieu, hein, de sa création d'une personne pour ce qu'elle est. Et chaque personne est différente de l'autre et chaque personne est aimée pour ce qu'elle est. Saint-Exupéry, justement, pour refuser cette robotisation de l'homme, pour refuser cet égalitarisme, met en valeur des vertus, lesquelles pouvons-nous retenir, Michel Faucheux?
Je dirais l'amitié, je dirais aussi l'amour, hein, l'amour qui le lie à Consuelo, l'amour qui lie le petit prince à la rose, hein, parce qu'il y a une sorte de similitude, bien sûr, entre la métaphore du petit prince et de la rose et Saint-Exupéry et son épouse Consuelo. L'amitié, la relation entre les hommes, le but de l'aviation qui est et de l'aéropostale dont il fait partie, dont il est pilote, c'est quoi? C'est de mettre en relation les êtres humains. Hein, c'est ça. Et donc, c'est l'amitié. Nous sommes des êtres de relation. Et au fond, s'il s'agit là, au fond, de mettre les fondements d'un humanisme qui repose sur la reconnaissance de l'autre homme, comme dirait Emmanuel Lévinas. L'autre homme, c'est aussi celui qui sauve, celui qui va sauver Saint-Exupéry et son mécanicien lorsqu'ils ont un accident avec leur Caudron Simoun dans le désert de Libye en 1935, accident qui sera la matrice du Petit Prince.
Si on revient un petit peu en arrière, quand Saint-Exupéry a fait sa première communion, il a songé à devenir prêtre. Il était atterri par l'abbaye de Solesmes et notamment par cette liturgie, hein, ce chant grégorien. Et pourtant, il se reconnaît, écrivez-vous, comme un passager clandestin. Alors, ça fait aussi référence à l'aviation. Vous nous avez dit au début de cette émission, hein, Michel Faucheux, qu'il était en quête spirituelle. Mais quel chrétien était-il? Parce qu'il est quand même d'une famille chrétienne, Saint-Exupéry.
Alors ça, vous savez, c'est la grande question lorsqu'on s'intéresse à Saint-Exupéry. C'est, je dirais même, L'énigme, la vraie énigme de Saint-Exupéry. Nous disions tout à l'heure qu'il était né à Lyon et il y a un passage dans lequel Saint-Exupéry raconte une visite qu'il a faite à Fourvière, à la cathédrale de Fourvière, en 1940, vers le soir, en hiver, au moment des vêpres. Et il dit, oui, je m'étonne de ne pas croire. En effet, il a baigné dans une éducation chrétienne, il a toutes les références chrétiennes, il a été au collège Sainte-Croix du Mans. Bon. Alors qu'il est baigné dans cette culture chrétienne, qu'il sait que l'être est fait de spiritualité et que le défi, c'est de rebâtir un être humain spirituel, il s'étonne de ne pas être de plein pied dans la foi. La foi qui est un don de Dieu. Et je crois que toute l'énigme de la vie de Saint-Exupéry tourne autour de cela que vous avez cité. Saint-Exupéry s'étonne de ne pas croire alors qu'il est tout entier, je dirais, dirigé par un besoin de spiritualité. Voilà. Et au fond, sa quête, c'est comment faire advenir Dieu en soi, parce que en définitive, je pense. Vous voyez, on est soumis à beaucoup d'interprétations lorsque on aborde ce sujet de Saint-Exupéry, concernant Saint-Exupéry, qui est le sujet majeur en
Eh
définitive,
oui.
hein, parce que la question de la spiritualité de Dieu, c'est la grande question de Saint-Exupéry. Je pense que, en fait, à la fois Saint-Exupéry bâtit, veut bâtir un être humain fait de spiritualité, et cette construction, elle a pour métaphore la citadelle, hein, la citadelle qu'il s'agit de bâtir pour Saint-Exupéry. On sait que citadelle, c'est le titre de son dernier
Eh
livre
oui, son
posthume,
ouvrage
hein, son
posthume.
grande œuvre posthume. Ben, cette citadelle, c'est l'être intérieur. Mais un être intérieur est-il solide dans ses fondations comme une citadelle si Dieu n'est pas présent? Et je crois que pour dénouer cette question, eh bien, Saint-Exupéry et pascalien. Saint-Exupéry est un grand lecteur de Pascal. Et en définitive, ben, je crois qu'il a recours au pari. En tout cas, c'est moi
Il
le
a
pari que je
recours
fais
pardon, à quoi?
au pari.
Ah, au pari.
Au pari de Pascal. C'est en tout cas moi le pari que je fais sur la relation de Saint-Exupéry à Dieu. Alors, peut-être il faut que j'explicite ça. Moi, ce qui m'a frappé, en lisant, relisant Saint-Exupéry, en lisant ses biographies, c'est que Saint-Exupéry est un grand joueur. Il ne cesse de jouer avec ses frères, avec son frère et ses sœurs. Il joue dans le parc de Saint-Maurice de Raymond. Saint-Maurice de Raymond,
C'est dans
c'était
l'Ain.
la maison de vacances près de Lyon de la famille Saint-Exupéry. Il joue à ce qu'ils appellent au chevalier à clean, ce qui consiste à courir dans le grand parc sans se faire
Attrapé.
touché par une goutte de pluie, et celui qui est touché par une goutte de pluie a perdu. Bon, il ne cesse de jouer, il joue aux cartes, il fait des tours de prestidigitation avec ses camarades de son escadrille. Bon, et bref, il joue aux échecs jusqu'à épuiser ses partenaires. Et je pense que de la même façon, Saint-Exupéry nous invite au fond à utiliser une forme de jeu qui est le pari et à parier sur Dieu. Et moi, le dernier vol, ce fameux dernier vol qui a lieu le 31 juillet 1944, où, à l'issue duquel Saint-Exupéry disparaît, hein, près de l'île de Ruyou, on le sait maintenant, dans les calanques de Marseille, eh bien, au fond, ce dernier vol, c'est un pari, en fait. Il va au-devant de Dieu, il prend tous les risques, il risque sa vie, il vole sans se protéger, on le sait à peu près. Et en définitive, risquant sa vie, jouant sa vie avec la mort, c'est une façon, au fond, de parier sur Dieu. Voilà,
Oui, c'est ça.
il y a une dimension mystique dans ce dernier vol qui me semble assez évidente, surtout si, précisément, on se réfère aux deux dernières lettres qu'il a écrites la veille. J'ai fait allusion à l'une d'elles, hein, lorsqu'il écrit « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante et je ai leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. » Voilà, le jardinier, c'est celui qui fait croître la spiritualité en lui-même. Hein,
Oui.
c'est cela. Le jardinier, c'est l'être intérieur. Eh bien, Je crois que face à cette désespérance d'un monde sans spiritualité, d'un monde qui l'affecte, eh bien, il parie sur Dieu. Et ce dernier vol, qui est un vol risqué, hein, où au fond, il se dit à lui-même, et c'est le titre de mon dernier chapitre, je crois, Adieu vate,
Oui.
eh bien, il parie sur Dieu, en définitive.
Il
C'est une
parie sur
façon
Dieu.
d'aller vers Dieu, en définitive.
Et puis, il parie sur Dieu, Saint-Exupéry, mais aussi pour répondre à ce désert dont vous nous parliez, Michel Fauchu, juste avant, ce désert qui est absence de Dieu, hein, pour Saint-Exupéry, il suggère de revenir à l'esprit d'enfance. Qu'est-ce que cet esprit d'enfance recèle?
Je crois que l'esprit d'enfance, évidemment, qui est incarné par la métaphore du petit prince, hein, c'est au fond un rapport originel et spirituel au monde. C'est le rapport poétique au monde. Au fond, la spiritualité est, je dirais, liée à la poésie, hein, je dirais presque les deux termes sont presque synonymes. Et au fond, l'esprit d'enfance, c'est l'esprit qui voit le monde, les choses, les êtres, eh bien, débarrassés de leur quotidienneté, avec toute leur présence humaine, qui est faite précisément de cette dimension de relation à l'invisible dont je parlais. Et nous sommes dans un monde où notre regard sur les choses, sur les êtres, est aveuglé par la quotidienneté. Eh bien, il s'agit de se débarrasser de ce regard quotidien pour revoir la splendeur et des êtres et du monde, et donc le Dieu qui se cache derrière cette splendeur, eh bien, et donc de se débarrasser de la cécité, hein, qui est la nôtre dans le monde matériel, économiste dont on parlait, dans lequel nous sommes précisément enfermés.
Et se débarrasser de la cécité, c'est aussi avoir un regard d'émerveillement, comme l'ont les
Oui.
enfants.
C'est ce que j'appelais la poésie, la présence du monde, l'émerveillement, la beauté, la splendeur. Hein, je crois que j'ai dit la splendeur. Oui, c'est cela. Nous ne savons plus nous émerveiller et des êtres et du monde. Eh bien, l'écriture, lorsqu'elle est guidée par un souci de spiritualité, comme c'est le cas chez Saint-Exupéry, est une écriture au fond qui vise à la poésie. Et la poésie, c'est cela. Nous réapprendre un regard d'origine qui est un regard d'émerveillement, de splendeur. Nous ne savons plus nous émerveiller du monde, des êtres qui nous entourent.
En tout cas, l'œuvre du Petit Prince est typiquement enfin, correspond typiquement à cet esprit d'enfance que Saint-Exupéry a voulu capter, a voulu garder pour répondre au constat qu'il avait fait de la robotisation et de l'absence de Dieu dans le monde.
Oui, c'est exactement ça, d'autant plus que, alors, Le Petit Prince, il paraît en 1943, hein, mais aux États-Unis. Il ne sera édité en France que plus tard, après la Libération. Donc, Saint-Exupéry, d'ailleurs, ignorera tout à fait le succès de ce livre, hein, dont on sait qu'il est objet de très grandes ventes. Et Le Petit Prince en fait comme l'expriment certaines lettres de Saint-Exupéry, aussi bien à Consuelo, son épouse, que à une inconnue rencontrée dans un train en 1943 en Afrique du Nord, lorsque Saint-Exupéry a repris le combat, parce que pour lui, il n'y a de vérité dans les mots, dans les idées, que si elles sont validées par un véritable engagement, et donc l'engagement contre le nazisme. Eh bien, Saint-Exupéry s'identifie au Petit Prince. Hein, s'identifie, Saint-Exupéry, c'est le Petit Prince, c'est-à-dire l'enfant émerveillé que chacun possède en lui-même, ce fameux Mozart que la civilisation assassine, c'est cela le petit prince. C'est Mozart avant d'être assassiné, en quelque sorte. Ce Mozart que nous avons tous en nous-mêmes et que précisément nous devons sauvegarder dans un monde qui fait tout pour l'assassiner. Donc le petit prince, c'est cela. C'est l'enfant que chacun, l'enfant intérieur, c'est-à-dire l'être spirituel, l'être originel, en proximité avec Dieu, que chacun de nous abrite en lui-même. Voilà. Et donc, Le Petit Prince, c'est évidemment pas un simple conte pour enfants, mais c'est aussi une parabole de qui nous sommes. Au fond, nous sommes projetés d'une planète dans un désert, comme Le Petit Prince. Eh bien, à nous, de savoir l'unicité d'une rose, comme le petit prince, À nous de savoir aimer et à nous de savoir qu'il ne s'agit pas de repartir vers une planète, mais il s'agit au fond de revenir vers notre destin, qui est celui, un destin d'amour et d'amour de l'autre, et c'est-à-dire de Dieu dans l'autre. Voilà.
Et on voit bien qu'en cela, Antoine de Saint-Exupéry rejoint Sainte Thérèse de Lisieux, hein, cette voix de la
Oui.
petite enfance, parce qu'il avait même une photo d'elle dans son portefeuille. Donc on voit vraiment des correspondances entre ces deux personnages, hein.
Oui, ben Saint-Exupéry, oui, le petit prince et la petite voix, vous, défendu par, prôné plutôt par Sainte-Thérèse de Lisieux, voyez que dans les deux expressions, hein, petite prince, petite voix, il y a l'adjectif petit. Et petit, c'est la vertu d'enfance, c'est cela. Et c'est vrai qu'on ne sait pas que, effectivement, il avait la photo de Saint-Exupéry avait la photo de Sainte-Thérèse de Lisieux dans sa. Avec lui, hein, après avoir fait d'ailleurs un pèlerinage à Lourdes avec son épouse Consuelo. On le sait peu, ça, et pourtant, c'est la rigoureuse vérité.
Ah oui, c'est magnifique. En tout cas, Michel Faucheux, je vous propose de marquer une pause musicale. Nous écoutons J'ai dans le cœur inspiré du Petit Prince, et puis vous nous direz juste après comment cette expérience du désert a pu transformer aussi Saint-Exupéry.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Nous sommes avec Michel Faucheux, auteur du livre Saint-Exupéry, la spiritualité au désert, aux éditions Salvator. Michel Faucheux, vous parlez dans votre livre, vous écrivez, le désert est la matrice de l'œuvre de Saint-Exupéry. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'expérience qu'a fait l'auteur du Petit Prince dans le désert?
Oui, bien sûr. Lorsque Saint-Exupéry travaille pour l'aéropostale, après avoir piloté, il est nommé par Didier Dorat, chef, chef, oui, à Cap, chef de, oui, à
De l'escadron,
l'aéropostale,
oui.
à Capjuby, donc dans ce qu'on appelait autrefois le Sahara espagnol, hein, donc de 1927 à 1929. Et ça, c'est première grande expérience. Et c'est lors de ce séjour à Capjuby qu'il va écrire Courrier Sud. Alors, il faut imaginer hein, que Capjuby, c'est vraiment le désert. Bon, il y a un fort où se trouvent des soldats espagnols à proximité, qui n'en sortent jamais. Et puis, il y a un hangar, quelques vagues, voilà, bon, bâtiments. Donc, un dénuement absolu. où donc Saint-Exupéry, qui est chef de poste, hein, se trouve isolé avec quelques mécaniciens. Et puis, deuxième grande expérience du désert, j'y faisais référence tout à l'heure, c'est lorsque, dans un raid vraiment mal préparé Paris-Saïgon, Saint-Exupéry connaît un accident en 1936 dans le désert de Libye, où il risque de mourir, hein, et où il est sauvé donc par des nomades. Cet autre homme, hein, dans Terre des Hommes, il fera l'apologie. Hein, voilà. Donc deux grandes expériences du désert qui sont en effet la matrice de son œuvre, parce que au fond, le désert, il est chargé de sens. Le désert, c'est ce lieu de dépouillement où précisément se fait l'expérience des prophètes. En hébreu, le désert, c'est Midbar, c'est la bouche. Donc, c'est là où ça parle, je veux dire, et où Dieu parle, pour être encore plus précis. Et puis, le désert, c'est aussi le lieu où l'on est sauvé par l'autre homme. C'est le lieu de la rencontre de l'autre homme donc qui sauve, l'autre homme sans lequel nous ne sommes pas nous-mêmes. Voilà. Donc c'est une expérience matricielle, évidemment, qu'on se retrouve par exemple, le livre Petit Prince, hein, où le petit prince fait la rencontre d'un pilote dans le désert,
Oui.
de la même façon.
Oui, c'est ça,
Voilà.
et ça raconte effectivement cette panne dans le désert. Est-ce qu'on peut dire que Antoine de Saint-Exupéry, dans le désert, il a eu la même expérience que Charles de Foucault?
Alors, bon, évidemment, c'est une expérience un peu différente. Charles de Foucault, c'est un petit peu avant. Mais je dirais que, et puis le séjour de Charles de Foucault est quand même beaucoup
Eh
plus
oui, bien
long, hein,
sûr,
je
oui.
dirais, dans le Sahara. Mais oui, bien sûr, je dirais que, parce que le désert, c'est un lieu, comme je le disais, de dépouillement de soi. Où au fond, dans ce dépouillement, c'est cet être intérieur qui surgit dans toute sa nécessité. Hein, au fond, dans le désert, on se dépouille de soi et on renoue avec l'être intérieur qui constitue chaque homme. Voilà. Donc, or précisément, c'est exactement le contraire de l'expérience dans un monde qui est le nôtre, qui est celui de l'accumulation d'objets, de marchandises, de l'inutile. Là, on en revient à l'essentiel. Le désert nous fait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire notre être intérieur. On sait ce qui est important, on sait ce qui ne l'est pas. Voilà. Et en cela, évidemment, c'est une expérience matricielle que celle du désert pour Saint-Exupéry. Vous savez, pour finir, dans Saint-Exupéry écrit à un moment donné, dans le désert, tout s'oriente. C'est-à-dire que l'orientation, c'est ce qui fait sens. Sens, c'est-à-dire signification et direction. C'est cela. Le désert nous réoriente vers précisément l'essentiel, c'est-à-dire la dimension spirituelle de l'existence.
Et vous citez dans votre livre la lettre de Saint-Exupéry qui s'appelle Lettre à un otage. Il écrit: Comme il n'est rien à voir ni à entendre dans le désert, on est bien contraint de reconnaître, puisque la vie intérieure s'y fortifie, que l'homme est animé d'abord par des sollicitations invisibles. L'homme est gouverné par l'esprit, l'esprit avec un grand E.
C'est exactement ça. Voilà. Dans ce dépouillement du désert, on en revient à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la dimension spirituelle. Et c'est pour ça que dans le désert, eh bien, on peut croître ce que, dans une belle formule, dans une belle métaphore, Saint-Exupéry nomme la religion d'une fontaine. La fontaine, qu'est-ce que c'est? C'est cette source intérieure qui peut nous irriguer d'une eau vive, hein, pour reprendre cette autre métaphore que l'on trouve dans l'épisode de Jésus la Samaritaine
Oui.
dans l'évangile de Saint Jean. Hein, eh bien, il y a en nous une source qui ne demande qu'à, je dirais, jaillir à nouveau dans le désert intérieur qui peut être le nôtre. C'est aussi cela que dit Saint-Exupéry. Dans tout désert, il y a une source. Le premier des déserts, c'est le désert intérieur qui nous constitue, dont une métaphore est le désert géographique, si je puis
Eh
dire.
oui, bien sûr.
Voilà.
D'accord. J'aimerais aussi que nous abordions la question du sacrifice, puisque Saint-Exupéry en parle dans son œuvre. Quelle définition en donne-t-il?
Je dirais que le sacrifice, au fond, c'est une épreuve de vérité. Au fond, se sacrifier, c'est donner une vérité, non pas une véracité, mais une vérité aux idées que l'on défend, à la vision de l'homme que l'on défend. C'est aller, au fond, c'est authentifier ces idées. Et pour vraiment Saint-Exupéry, la dimension sacrificielle, elle est fondamentale, parce que d'où ce qui explique, par exemple, son engagement, alors qu'il est
Pendant
aux
la guerre.
États-Unis, ça, il fait vraiment des pieds et des mains, hein, alors qu'il est âgé, qu'il est écrivain connu, que personne tient à ce qu'il risque sa vie, il fait des pieds et des mains pour revenir au combat et donc se retrouver dans son escadrille 233 en Afrique du Nord. Et le sacrifice, je dirais, l'archétype du sacrifice, évidemment, c'est le sacrifice du Christ, hein, c'est donner sa vie pour autrui. Et ben, de la même façon, se sacrifier, c'est pour Saint-Exupéry, je dirais, à la fois donner, valider en quelque sorte ses idées, et au fond, de la même façon, dans le combat contre le nazisme, contre la barbarie, eh bien, se sacrifier pour autrui. Voilà. Donc, il y a une dimension christique aussi dans le sacrifice chez Saint-Exupéry.
Oui, c'est ça. Et vous citez cette phrase de Saint-Exupéry dans Écrits de guerre. Par sacrifice, je n'entends pas le renoncement au bien de la vie, ni le désespoir dans la pénitence. J'entends le don gratuit. C'est ce que vous disiez,
Voilà.
Michel Faucheux, avec le don gratuit du Christ
Oui.
qui meurt
Ce
sur la
sacrifice,
croix
ce n'est
pour
pas un
nous.
suicide, au contraire, qui est au fond une revendication de la mort. C'est au contraire un don de soi. Et je dirais que on en revient aussi à l'expérience du désert. Le désert, c'est donner. Hein. Au fond, le désert donne à être, mais dans le désert, il y a l'autre homme qui redonne la vie, celui qui sauve. Ce qui fait que le désert nous apprend la fraternité entre nous tous. Parce que dans le désert, il y a toujours celui ou celle qui va être là pour nous sauver alors que nous sommes en pleine déshérence. C'est vrai dans le désert géographique, mais c'est aussi vrai dans le désert
Spirituel.
civilisationnel et intérieur qui peut être le nôtre.
Vous avez parlé, Michel Faucheux, de ce jardinier, puisque c'est vrai qu'on le voit bien dans Le Petit Prince, ce petit prince qui prend soin de sa rose, qui va l'arroser. Et vous faites le lien dans votre livre entre l'aviateur et le jardinier, qu'était Saint-Exupéry. Pourquoi ce lien et comment il peut nous inspirer aujourd'hui?
Alors, je dirais de plusieurs façons. La métaphore du jardinier revient très souvent chez Saint-Exupéry, et d'ailleurs, il oppose aussi, ailleurs, les êtres jardins et les êtres cours. Bon. Alors, le jardinier, alors, c'est celui d'abord qui sait lire les signes de la nature, les signes du climat, etc. Bon. De la même façon, dit Saint-Exupéry, lorsqu'on est en vol, du haut, eh bien, on interprète les signes qui sont sur Terre, les lumières, etc. Ce qui, d'ailleurs, pour les premiers pilotes, les aider à se guider,
Oui, parce qu'il n'y avait pas toute
se
la
guider
sophistication.
en regardant ce qui défilait, les paysages qui défilaient
Et se repérer
sous
aux
ses yeux.
étoiles.
Et puis, évidemment, le jardinier, c'est celui qui fait croître. Hein, c'est celui qui fait croître la fleur, c'est celui qui fait croître une végétation, c'est celui qui fait croître un jardin, c'est celui qui fait croître de la beauté. Et de la même façon, je dirais que le pilote, en s'élevant, il nous réapprend la beauté du monde. Parce que, au fond, lorsqu'on voit le monde depuis l'avion, on s'aperçoit, eh bien, à la fois de son unicité et de sa beauté. Donc, tous deux font croître en nous cette dimension, j'y reviens à nouveau, spirituelle, qui est inséparable du sentiment de beauté et, comme on le disait aussi tout à l'heure, du sentiment d'émerveillement. Voilà. Nous sommes tous, vous voyez, il y a une solidarité entre. D'ailleurs, le petit prince est un jardinier, donc notre être intérieur peut se décliner à travers plusieurs métaphores, celle de l'enfant que nous sommes, celle du jardinier qui fait croître en nous, celle de l'être qui habite une source intérieure. Voilà, il y a tout un réseau de métaphores qui nous dit qu'il y a en nous précisément une capacité spirituelle qui nous élève et que nous ne soupçonnons pas. Voilà, à nous de nous élever. Le jardinier, il fait croître la fleur. La fleur, elle s'élève vers le ciel. De la même façon, le pilote, eh bien, il s'envole avec son avion vers l'en deçà, vers l'au-dessus, vers Dieu.
Et le jardinier, il prend soin aussi. Et ça fait le lien avec ce que vous disiez avant la pause musicale de tout humain qui est en lien avec les autres, comme dans la parabole du bon samaritain où chacun prend soin les uns des autres.
Oui, c'est la relation du petit prince avec sa rose.
Ouais.
Le petit prince prend soin de sa rose. Et en définitive, la dimension spirituelle des êtres, parce qu'elle nous apprend que chaque être est irremplaçable, que chaque être de la beauté en lui, eh ben, elle nous pousse à prendre soin de lui, ce qui est aussi un autre nom de l'amour en définitive. Hein, aimez-vous les uns les autres, prenez soin des uns des autres. En définitive, c'est la même chose. La dimension spirituelle de chaque être, elle est inséparable de notre capacité à aimer. Et je pense qu'en effet, un des mots essentiels, aussi bien sûr, du christianisme que dans l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est cette dimension de l'amour, en effet, oui.
Oui,
Voilà.
oui.
Aimer autrui, aimer Consuelo, son épouse, hein, qui se dit à travers la métaphore de la rose. Voilà. C'est au fond le grand mot, au fond la meilleure preuve, ou en tout cas une grande preuve de notre capacité à être des êtres spirituels, à évoluer dans l'invisible, c'est notre capacité à aimer.
Oui,
Voilà.
notre
Et
capacité à aimer. Et puis, pour terminer, Michel Faucheux, vous avez évoqué ce livre Citadelle hein, qui a été publié à titre posthume, donc livre de Saint-Exupéry. Et c'est vrai que dans ce livre, il considère que l'homme est un bâtisseur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça?
Je dirais que d'abord, l'entreprise de Saint-Exupéry, c'est une entreprise de construction. Il s'agit de construire un être intérieur qui a pour métaphore celle de la citadelle. Hein. Nous sommes des citadelles. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Mais voyez, ce mot, il fait d'autant plus sens aujourd'hui, 80 ans après, que, on le sait bien, à bien des égards, on nous parle beaucoup aujourd'hui de déconstruction. Nous sommes dans un monde qui se déconstruit ou qui pratique sous de multiples formes la déconstruction. Or, l'œuvre de Saint-Exupéry est une œuvre radicalement opposée parce que c'est une œuvre, comme vous dites, de bâtisseur. Et je pense qu'un des grands enjeux, si on veut être fidèle à la leçon d'engagement de Saint-Exupéry, parce que l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est une œuvre d'engagement, engagement pour Dieu, engagement pour la spiritualité, et bien précisément, c'est d'être dans cette dimension de construction, qui d'ailleurs est inséparable de la dimension de l'amour. Voilà.
Dimension de construction et comme vous écrivez, c'est reconnaître que l'existence est une quête et que toute quête est intérieure, puisqu'il a été surnommé le commandant des oiseaux. C'est un très joli titre aussi pour le
Oui,
livre.
je crois que c'est aussi ce que nous apprend Saint-Exupéry, c'est que nous devons vivre notre existence à travers ses joies, mais aussi ses épreuves, comme précisément une progression, une quête. Donc, par exemple, l'œuvre de Saint-Exupéry peut être un élément de guidage, si je puis dire. Voilà. Nous devons être en mouvement, tout comme l'aviateur est en mouvement dans son avion, tout comme dans le désert, même si nous sommes perdus, il nous faut avancer. Hein, tout comme Guillaumet dans la cordillère des
Eh
Andes
oui.
avance. Et qu'est-ce qui fait avancer Guillaumet dans la cordillère des Andes alors que son avion s'est abîmé, qu'il a froid, qu'il est gelé, qu'il est quasiment au bord de la mort? C'est l'amour pour son épouse. Il le dit.
Oui.
Eh bien, nous devons être des êtres en mouvement. Le jardinier que nous sommes, en fait, il n'est pas statique. Il faut que nous-mêmes, comme l'aviateur, comme le jardinier, nous soyons en mouvement avant que nous avancions dans la quête de nous-mêmes, qui est aussi la quête de l'autre, la quête de Dieu. Bref, rien de pire que, au fond,
De
une
rester
vie qui serait
statique.
statique,
Eh
enfoncé dans des certitudes, enfoncé dans la quotidienneté. Au contraire, c'est le mouvement qui doit nous guider, nous impulser et nous permettre de vivre au
oui.
sens fort du mot. Voilà.
Voilà, en tout cas une bonne exhortation pour entrer dans le temps de carême qui arrive et qui peut nous guider. Merci beaucoup, Michel Faucheux, pour vos réflexions. Je
Merci à
rappelle
vous.
le titre de votre livre, Saint-Exupéry, la spiritualité au désert, aux éditions Salvator. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.